Donc, en fait, il y a quelques temps déjà, nous avons eu une série de prédications. Nous avons partagé ensemble des messages sur le disciple de Jésus-Christ. Nous avons vu un certain nombre de choses sur le disciple, notamment sur le fait que le disciple, avant tout, c'est celui qui obéit au Seigneur Jésus parce qu'il reconnaît qu'il est son maître. Nous avons vu comment Dieu forme le disciple aussi par les épreuves, la souffrance. Et nous en avons aussi profité pour parler du faux disciple, celui qui se dit chrétien mais qui n'est pas soumis au Seigneur Jésus. Et ça existe aussi. Nous avons donc par cette occasion invité les personnes qui ne se sentent pas, enfin, qui n'ont pas cette obéissance au Seigneur à faire la démarche pour devenir de véritables disciples. Il se trouve que le disciple n'est jamais tout seul. Le disciple est censé vivre avec d'autres disciples. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est que forment les disciples lorsqu'ils se réunissent, lorsqu'ils se mettent ensemble, que forment-ils en fait? On va dire qu'en réalité, les disciples forment deux choses de nature différente. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'Église, qui est souvent écrite avec un E majuscule, et l'Église avec un E minuscule. Ou plus, pour simplifier, on dit aussi l'Église locale. Et en fait, le message porte sur le fait de faire Église ensemble. Comment faire Église ensemble? Mais il me semble important, avant de parler de faire Église, quand je dis faire Église, je parle de faire Église locale ensemble, comme on se réunit dans une communauté pour faire Église. Mais il me semble important, avant de parler de ça, de parler de l'Église avec un grand E. Qui est vraiment le. Enfin, même si ce n'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose de spirituel, l'Église avec un grand E, il est important d'en parler avant de parler de l'Église locale. Et après, bah, je finirai par faire une autre. Je dirais une introduction sur l'Église locale, parce qu'en fait, ce message, il est un peu long, puisque j'ai deux parties là, sur l'Église avec un grand E. Et ce n'est que la prochaine fois qu'on verra l'Église locale dans un deuxième message. Donc aujourd'hui, l'Église avec un grand E. Comme je le disais, c'est une communauté spirituelle, je dirais invisible, parce que c'est quelque chose de spirituel. Donc on ne voit pas l'Église avec un grand E. Et la Bible donne plusieurs désignations à cette entité qu'est l'Église. Et j'aimerais en citer quelques-unes, hein, les désignations qu'on trouve pour l'Église. La première que je vais prendre, c'est le corps du Christ. L'Église, la grande Église avec un grand E, est appelée également le corps du Christ. L'apôtre Paul nous écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 23, Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc l'Église avec un grand E est le corps du Christ. Donc quand vous trouvez cette expression dans la Bible, quand on parle du corps du Christ, on parle de l'Église, l'entité spirituelle. Il y a une autre désignation, c'est la maison de Dieu. L'Église est appelée maison de Dieu. C'est toujours l'apôtre Paul, quand il écrit sa première lettre à Timothée, au chapitre 3, verset 15, il dit à Timothée, mais sache que si je tarde, pardon, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant. Et il rajoute la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire que l'Église, d'un côté, dans ce verset, on nous montre que l'Église, c'est la maison de Dieu, mais elle est aussi l'appui et la colonne de la vérité. Donc ça va être en fait notre troisième désignation, donc corps du Christ, maison de Dieu, et colonne et appui de la vérité. Ça veut dire que l'Église détient une vérité, ou détient la vérité qu'elle doit proclamer au monde. C'est pour ça qu'on l'appelle l'appui et la colonne de la vérité. Et quatrième désignation, c'est le temple de Dieu. L'Église est également appelée temple de Dieu dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Paul nous dit, nous sommes le temple du Dieu vivant. L'Église est le temple du Dieu vivant. Ces notions de temple et de maison, nous allons y revenir plus tard pour commenter un peu plus dans le détail ces deux notions de maison de Dieu et temple de Dieu. J'aimerais terminer par une cinquième désignation que je trouve la plus belle, c'est l'épouse. L'Église et l'épouse. Paul, en écrivant aux Éphésiens, dans sa lettre au chapitre 5, je vais vous lire les versets 25 à 27. Donc il fait cette analogie entre un couple humain et ce couple entre l'Église et le Christ. Et Paul écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand je vois cette description de l'Église, c'est assez extraordinaire de voir ce que le Seigneur attend de l'Église, quelque chose de pur et d'irrépréhensible. Pour moi, c'est le plus beau titre qu'on donne à l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et Dieu a révélé d'une certaine façon la beauté de cette épouse à l'apôtre Jean. Et Jean essaie de décrire ce qu'il voit avec ses mots dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir au chapitre 21, versets 9 à 11, comment Jean décrit l'Église, cette épouse. Et donc, il est en présence d'un ange qui lui montre les merveilles de Dieu, qui lui fait les révélations. Et puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une haute et grande montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Et si on parle d'époux et d'épouse, il y a forcément un amour entre les deux. Les deux sont épris l'un pour l'autre. Et la Bible parle de cet amour, de l'amour entre un homme et une femme, aussi, chose que parfois on n'imagine pas. Et je me souviens que quand j'étais enfant, on me disait qu'il y avait des adolescents ou des jeunes qui se servaient de la Bible pour écrire des lettres d'amour à leur fiancée. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et j'aimerais vous lire un passage des Écritures où on voit ça, où certains ont compris et ils se sont inspirés de ça pour écrire des poèmes ou des lettres d'amour à leur ami. C'est un échange entre Salomon et une Sulamite. Et je pense que c'est un échange prophétique. Si on l'a mis dans la Bible, ce n'est pas uniquement juste l'amour entre une femme et un homme, c'est important pour Dieu. Mais je crois que là, il y a quelque chose de prophétique entre le Christ et son Église. Et j'aimerais vous lire quelques passages. Évidemment, c'est un peu long, donc j'ai fait un condensé, j'ai pris juste quelques versets. Je vais prendre au premier chapitre les versets 2 à 4, les versets 12 du premier chapitre, jusqu'au verset 7 du deuxième chapitre. Et puis du quatrième chapitre. Donc, comme je vous ai dit, j'ai les références ici que vous pourriez prendre. Donc, chapitre 4, verset 7, jusqu'au chapitre 5, premier verset. Et on va voir cet échange, ce bel échange entre les fiancés. Et c'est la fiancée qui commence, qui parle, qui dit: Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi auprès de toi. Nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons et nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison qu'on t'aime. Tandis que le roi est dans son entourage, mon nard exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'En-Gedi. Et le fiancé qui répond: Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et elle reprend: que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Et il répond, les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Et elle reprend, je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Et il lui répond, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. La fiancée lui dit, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans sa maison, il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa main droite m'embrasse. Et le fiancé termine. Je vous en supplie, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Donc là, c'est juste un condensé que vous pouvez relire ce livre des Cantiques. C'est extraordinaire cet amour entre deux êtres, deux fiancés. Et je pense que c'est vraiment un échange prophétique entre l'Église l'Église et le Christ, donc entre les deux époux. Et je comprends maintenant pourquoi certains se sont servis parfois de ces passages-là pour écrire des lettres à leur copine ou à leur copain. Et donc, on voit ici cet amour qui nous est décrit entre l'Église et le Christ. Évidemment, si des époux ou des fiancés sont épris d'amour, à un moment donné, il y a des noces. Forcément, il y a des noces. Et bien entendu, la Bible nous décrit un petit peu ce qui va se passer entre le Christ et son épouse, les noces de l'agneau qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et là, on voit, c'est pour ça que je dis que vraiment la désignation, le titre le plus beau de l'Église, pour moi, c'est l'épouse. C'est l'épouse du Christ. Alors, ces noces dont je viens de parler, ça donne envie, tout le monde a envie d'y participer. Alors, comment on fait pour participer à ces noces? Évidemment, il faut faire partie de l'Église. Il ne s'agit pas de faire partie d'une communauté chrétienne, d'une assemblée chrétienne. Il s'agit de faire partie de l'Église, de l'épouse pour y être. Donc il faut faire une différence entre l'assemblée que nous formons ici et l'épouse. Pour être aux noces, il faut être dans l'Église, c'est-à-dire l'entité spirituelle dont je parle, l'épouse véritable. Alors qui se trouve alors dans cette Église ? Dans l'épouse du Christ. C'est tous les croyants en Christ sans exception. Tous les croyants en Christ, les véritables croyants du Christ, sans exception, font tous partie de l'épouse. C'est ceux qui possèdent la vie nouvelle en Christ, ceux qui ont la vie de Dieu en eux. Ceux que le Christ a acquis pour Dieu par son propre sang, ce sont ces gens-là, et dans lesquels son esprit habite. Et uniquement ces personnes-là. Si je n'ai pas la vie de Christ, je ne peux pas être dans l'Église, dans l'épouse. Et parce que c'est quelque chose de pur, l'Église, l'épouse, c'est quelque chose d'absolument pur. Et nous l'avons lu tout à l'heure, à la fin du verset, du passage d'Éphésiens chapitre 5, je vous relis le verset 27, « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, et irrépréhensible. L'Église est parfaitement pure. Il n'y a que des personnes qui ont la vie de Christ, qui vivent dans la sanctification, qui font partie de cette épouse. Et quand on est membre de l'Église, de cette Église-là, on est appelé pierre vivante. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 2, versets 4 et 5, nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices enfin des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, ceux qui font partie de l'Église sont des pierres vivantes, nous dit l'apôtre Pierre, pour former une maison. Donc, si on forme une maison spirituelle, donc une maison qui n'est pas visible, une maison spirituelle, on a besoin de pierres. Et ces pierres sont des pierres spirituelles et des pierres vivantes qui ont la vie de Christ en elles. Donc, les matériaux de la maison de Dieu, comme je parlais tout à l'heure de la maison de Dieu, ce ne sont pas des pierres, des pierres comme nous voyons ici. Donc, un salle de culte n'est pas l'Église. L'Église est constituée de personnes vivantes qui ont la vie de Dieu en elles. Et quand on parle de temple, dans la Nouvelle Alliance, le temple de Dieu, c'est l'Église, c'est l'épouse. Ce n'est pas un bâtiment. Un bâtiment n'est pas un temple. Un bâtiment n'est pas une maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous. C'est ceux qui forment, ceux qui sont dans l'Église. Et si on a une maison, il y a forcément un bâtisseur. Et qui bâtit la maison, à votre avis, qui bâtit cette maison spirituelle? Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est Jésus qui parle. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Jésus dit « C'est moi le bâtisseur. » Voilà. Ça aussi, on aura l'occasion de le commenter un peu plus tard, le fait que c'est Jésus qui bâtit son Église. Il est le bâtisseur et il est aussi le gardien de l'Église. Et ça nous rassure que finalement, il y a un gardien de la maison. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, j'aimerais vous lire les versets 12, 13 et 20, où l'apôtre Jean a cette révélation. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Les sept chandeliers sont les sept églises. En fait, l'église entière est symbolisée ici par sept églises. Et au milieu, qu'est-ce qu'on voit? Le Christ. Il est toujours présent au milieu de son église. Et il garde l'église. Nous pouvons être rassurés. Nous avons un gardien qui est toujours présent. Donc l'église, il y a quelqu'un qui bâtit l'église, c'est toujours le Christ. Quelqu'un qui garde l'église, c'est le Christ. Donc nous sommes confiants, nous sommes rassurés parce que nous avons toujours notre maître qui est là, qui est présent au milieu de son église. Et quel doit être le comportement des membres de l'église? Qu'est-ce que Dieu attend de nous, de ceux qui veulent faire partie de cette maison spirituelle? Dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 22, l'apôtre Paul exhorte Timothée et lui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Paul invite Timothée à se joindre à d'autres pierres vivantes pour invoquer le Seigneur. Il ne s'agit pas de rester seul, mais il faut se mettre avec d'autres disciples pour invoquer le Seigneur ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on va former une communauté. On va se joindre à d'autres personnes pour former une communauté, une assemblée, une église locale. Et donc j'aimerais commencer déjà à introduire la notion d'église locale, que je terminerai la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a dans l'église locale? De quoi est composée l'église locale? Toujours dans cette lettre, je prends ce passage de 2 Timothée chapitre 2. Et nous remontons au verset 20. Paul nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi il y en a de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil ou sont d'un usage vil. On voit ici que dans la maison, dans une communauté, il y a aussi bien des vases d'honneur que des vases d'usage vil. C'est-à-dire que dans l'église locale, il y a aussi bien de véritables enfants de Dieu qui ont la vie de Christ en eux, et puis il y a des gens qui ne le sont pas encore, qui viennent, physiquement on voit des personnes, mais ce n'est pas cette personne-là qui forme l'église, l'épouse. Il y a vraiment des gens qui sont nés de Dieu, qui ont l'esprit de Christ en eux, donc qui font partie de l'Église véritable, et puis il y a des personnes qui ne sont encore que des vases d'usage vil. Et donc, nous sommes amenés à inviter toute personne à faire cette démarche véritable pour devenir vase d'honneur. Donc, dans une église, ce n'est pas parce que... Quand on a eu ensemble le message sur les faux disciples, nous avons bien rappelé que être chrétien ne signifie pas faire partie d'une assemblée ou d'une église locale. Donc, on a vu certains faux raisonnements qu'on peut faire. Je suis chrétien parce que je fais partie d'une assemblée chrétienne ou je fais partie d'une église locale. Non, l'église, c'est ceux qui ont reçu la vie de Christ. Et Paul continue, donc verset 19, je remonte un peu plus haut, verset 19. « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Dans l'église locale, nous ne pouvons pas juger qui est réellement enfant de Dieu ou pas. Mais seul le Seigneur le sait. Seul le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent dans l'église locale. Et il est précisé que ceux-là qui, en réalité, qui sont des enfants de Dieu, s'éloignent de l'iniquité. C'est ce qui va faire la différence. Quelqu'un qui s'obstine dans l'iniquité, je ne dis pas quelqu'un qui chute de temps en temps comme nous tous, mais quelqu'un qui s'obstine dans l'iniquité n'est pas un enfant de Dieu. C'est ce que Paul veut dire ici, que celui qui prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Voilà, ça peut arriver qu'on chute. Mais si je persiste dans l'iniquité, c'est qu'il y a un problème. Je ne suis pas réellement un enfant de Dieu. Et ça, nous devons le dire, nous devons le répéter pour que chacun puisse se mettre en ordre afin de faire partie de cette église véritable qui est l'épouse du Christ. Car, le Seigneur dit, ce n'est pas parce que nous venons au culte régulièrement, ce n'est pas parce que nous sommes dans une assemblée qu'il nous accueillera. Il dit qu'il nous coupera et qu'il nous jettera au feu, nous qui ne sommes pas réellement, ceux qui ne sont pas réellement convertis et qui n'ont pas reçu la vie de Christ. Et il fait, j'aimerais prendre un passage dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, versets 24 à 30. Et Jésus propose une parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Voilà, Jésus dit, on peut être ensemble dans une assemblée, on peut être mélangé. Vrais chrétiens et faux chrétiens, mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne sont pas véritablement convertis et qui n'ont pas la vie du Christ, il va les arracher et les jeter au feu. Donc ce sont des paroles qui doivent résonner en nous pour que nous puissions nous faire la démarche nécessaire pour revenir, pour venir au Seigneur et changer nos vies réellement, pour faire partie de cette belle épouse. Donc, je disais que l'assemblée locale est visible. C'est une communauté visible. Et donc, on peut se poser une question. Pourquoi, quand je fais partie de l'épouse du Christ, je vais m'assembler avec d'autres chrétiens pour former une église locale qui est visible? J'aimerais avoir vos réponses éventuellement. Est-ce que vous avez des idées? Pourquoi les chrétiens se mettent-ils avec d'autres chrétiens?
L'union fait la force.
L'union fait la force. D'accord ? Entretenir la foi. Voilà, s'exhorter et céder les uns les autres.
Quand deux ou trois sont assemblés, Jésus est au milieu.
Augmenter la foi quand on est ensemble. La mise en pratique de la parole ensemble. Pour être corrigé aussi, si je suis dans l'erreur. Non mais je pense que tout ce qui est dit est vrai. Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église locale? Qu'est-ce que l'Église aussi doit faire? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'Église est amenée à faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Nous avons une mission, ou nous avons des missions. C'est quoi? Annoncer la parole.
Se rapprocher de lui.
Ramener des personnes dans le bon chemin. Voilà, ce sont des choses que le Seigneur attend de nous. Et effectivement.
Chercher le pécheur.
Oui. J'aime bien cette réponse parce que beaucoup pensent, j'ai pas eu cette réponse ce matin, c'est que beaucoup disent on se met en assemblée pour faire le culte dimanche matin. Il y a beaucoup qui le pensent. Il y a beaucoup de chrétiens dont la vie est centrée sur le culte du dimanche matin. Et il y a beaucoup d'églises locales qui ne vivent que par le culte de dimanche matin. Comme si la mission confiée au Seigneur à l'Église, c'est de se rassembler le dimanche matin. Mais si nous examinons un petit peu les Écritures, nous allons voir que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur attend de l'Église locale. Examinons un peu les Écritures. Je vais prendre deux passages pour voir les missions confiées par le Seigneur à son Église. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ce qui a été dit tout à l'heure, comme réponse. Le Seigneur donne une mission. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et il est un peu plus précis dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. » Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voyons qu'en fait, le Seigneur a confié deux missions à l'Église. Pas plus. Deux missions. Annoncer l'Évangile et faire des disciples. C'est tout. Il ne nous a pas dit « Allez vous rassembler le dimanche matin ». On n'a pas lu ça. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas se rassembler le dimanche matin. Je ne condamne pas le culte. J'aimerais dire simplement que ce n'est pas le cœur de la vie chrétienne. Ce n'est pas la mission. La mission, ce n'est pas se rassembler le dimanche matin. Le Seigneur ne l'a jamais demandé comme mission, ne l'a jamais donné comme mission. Mais ça, le culte a son importance, nous y reviendrons. Mais ce n'est pas la mission de l'Église. L'Église locale est appelée à aller annoncer l'Évangile et faire des disciples. C'est tout ce que le Seigneur a demandé. Or, malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pour préoccupation que le culte de dimanche matin. Et c'est dommage. Nous y reviendrons plus tard sur le culte, mais gardons à l'esprit que ce que le Seigneur veut de son Église, et donc, enfin par conséquent de l'Église locale, c'est d'aller annoncer l'Évangile et faire des disciples. Mais on verra à quoi sert quand même le culte. Mais gardons en tête que ce n'est pas la préoccupation majeure du Christ. Il y a trop de communautés qui ont pour préoccupation principale remplir leur salle de culte. Remplir la salle de culte. Sans se soucier véritablement du salut authentique de ceux qui remplissent la salle. Donc il y a des salles qui sont pleines, mais les gens ne sont pas convertis. Le Seigneur n'a pas dit « remplissez des salles, convertissez les gens ». Enfin, annoncer la nouvelle pour que les gens se convertissent. Après, à la limite, si les gens vont dans d'autres assemblées, là n'est pas la question. Je me souviens, j'ai fait partie d'une assemblée à Lyon où nous parlions d'évangélisation. Et j'ai dit au pasteur que, enfin moi je suis passionné par l'évangélisation, et on va aller annoncer l'évangile dans la rue, et les gens vont se convertir. Et évidemment, on leur dit, si vous voulez, vous venez à notre culte. Il m'a dit, non, mais toute personne convertie doit venir chez nous. Je dis, mais non, mais moi, Ma question, le Seigneur ne m'a pas dit ramène des gens dans cette salle. Il m'a dit convertis des gens. Après, on leur dit nous avons une assemblée, si vous voulez, vous venez. Mais si ça vous arrange d'aller ailleurs. Mais le pasteur n'était pas du tout d'accord. Pour lui, il faut remplir notre salle. On était en désaccord par rapport à ça. Moi, j'ai dit, je n'ai pas vu à quel moment le Seigneur nous dit allez remplir des salles. Il dit, allez annoncer l'évangile, faites des disciples. Si la personne veut venir chez nous, il vient. Elle vient, mais. Voilà. Et il y a trop de communautés comme ça qui ne pensent qu'à remplir leur salle, sans se préoccuper. Alors, le drame, c'est qu'ils ne se préoccupent pas forcément de la conversion véritable de ceux qui remplissent la salle. Mais la salle, elle est pleine. Mais ce n'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Donc nous reviendrons après sur la salle de culte et le culte en lui-même. Mais que notre préoccupation majeure soit vraiment le salut des âmes. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Que nous nous préoccupions du salut éternel des âmes. C'est ça notre véritable mission. Nous devons nous soucier donc forcément de la conversion authentique des personnes qui sont dans les salles. C'est ça qui doit nous préoccuper. Parce qu'en fait, je suis convaincu que c'est la santé spirituelle d'une communauté qui va entraîner sa croissance aussi numérique. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas en remplissant la salle que l'Église va grandir, je dirais spirituellement, mais je pense que c'est en grandissant spirituellement qu'elle va grandir en nombre. C'est mon point de vue. Mais trop de communautés pensent d'abord à remplir la salle. Après, on verra ce qui se passe. Mais je le répète, remplir la salle n'est pas la mission que le Seigneur nous a confiée. Je le répète, il y a deux missions pour l'Église. Je dirais, il y a une mission externe qui consiste à annoncer l'Évangile, et une mission interne qui consiste à faire des disciples, à former des disciples. Voilà. Et donc il y a un processus qui est logique, que le Seigneur nous donne, qui est tout à fait logique. Premièrement, j'annonce le salut. J'annonce la bonne nouvelle du salut aux personnes. Et ensuite, deuxième mission, une fois que les personnes ont accepté ce salut, je les forme en tant que disciples. Donc c'est... Le Seigneur est très logique, est très simple. Donc, cette notion de former des disciples sera l'objet de la deuxième partie de ce message, parce que nous allons parler de ce que fait l'Église locale. Et donc, l'Église locale, on a dit beaucoup de choses aujourd'hui, donc, qui va exhorter les gens à grandir, à corriger ceux qui sont dans l'erreur, etc. Donc, on va vraiment former les disciples dans l'Église locale. Ce sera l'objet de notre prochain message. Quant à l'annonce de l'Évangile, ça fera l'objet d'une série, carrément une série de messages. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est le cœur, c'est notre mission. Donc il faut qu'on le travaille, qu'on travaille ce thème en profondeur. Donc ça fera partie d'une autre série de messages. Mais la prochaine fois, nous allons parler de ce qui se passe dans l'Église locale. Voilà, quelles sont ses actions, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'Église locale, comment faire des disciples, voilà, comment faire des disciples. Et je dirais que plus généralement, on va voir ce que fait l'Église locale. Voilà. Aujourd'hui, on a parlé de l'Église spirituelle, l'épouse du Christ qui est invisible, qui est spirituelle. Et on prendra plus de temps de parler de l'Église locale visible, où des personnes se rassemblent, et de leur mission, de leur rôle, de leurs actions, la prochaine fois. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Amen.